Eh bien, bonsoir à tous. C'est de nouveau pour notre émission mensuelle le groupe d'Amnesty d'Evreux qui va faire un petit point sur l'actualité des droits humains, une actualité toujours aussi chargée. Nous avons différents dossiers à aborder ce soir que nous avons un petit peu préparés pour vous. Et tout d'abord, on va faire comme d'habitude, on va faire les présentations. Donc, sont avec nous ce soir Françoise.
Bonsoir.
Il y a Ronan qui est occupé à la technique.
Bonsoir.
Donc, je l'ai un peu pris de court. Et donc, moi-même, Didier. On va commencer aussi par avoir une petite pensée pour quelqu'un qui devait être avec nous ce soir, Edith, que vous avez déjà entendu à l'émission. Malheureusement, elle a des soucis de santé, pas elle, mais dans sa famille, au niveau de ses parents. Et donc, on pense bien à elle. Si elle nous écoute sur Internet, eh bien, écoute, on t'embrasse, Edith, et puis on espère que tout va aller pour le mieux dans ta famille. Voilà, donc on va commencer l'émission ce soir par dire un petit mot, comme on l'a fait ces deux ou trois dernières émissions, à propos de l'actualité de l'évolution des droits de l'homme dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes. Donc bien sûr, Amnesty continue à encourager de toutes les façons possibles et imaginables toutes les révoltes visant à une meilleure situation des droits humains et de la démocratie dans ces pays. Les pays qui maintenant en ligne après la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où il se passe des choses dramatiques en Libye, mais qui s'est effectivement révolté contre son dictateur, le site de sinistre mémoire. Il s'agit maintenant effectivement de la Syrie, et qui était également dirigée par un régime extrêmement autoritaire. Depuis de nombreuses années, régime qui a lui-même été l'objet de beaucoup d'actions, de protestations d'Amnesty International. On a souvent écrit en Syrie. On a souvent demandé la libération des prisonniers politiques, on a souvent demandé l'amélioration des droits humains dans ce pays-là, et disons qu'on espère que la révolution démocratique pourra se faire avec le moins de sang avec le moins de sang possible. Malheureusement, c'est déjà trop tard, puisqu'il y a déjà eu l'armée syrienne et les forces de répression qui ont tiré sur la foule. Sinistre habitude aussi des dictateurs de tirer sur leur propre peuple. Malheureusement, c'est pas nouveau, ça fait des millénaires que ça dure, mais on continue à protester contre ce genre de choses. Donc on est de tout cœur avec le peuple syrien. On espère qu'il pourra effectivement voir sa situation s'améliorer très vite et que les droits humains dans ce pays-là, comme dans les autres, pourront effectivement s'améliorer très vite. Un petit commentaire sur que j'ai déjà fait aussi, je crois, l'autre fois, mais qu'il est bon de répéter, parce qu'on entend effectivement des politiques dire ici que la révolte dans les pays arabes et la démocratie peut amener des vagues d'émigration, entre guillemets, chez nous. Et il faut quand même être un petit peu sérieux. Les populations arabes n'ont pas comme destinées à passer du stade d'opprimé au stade d'envahisseur. Et que c'est une façon de voir les choses qui est vraiment une caricature assez insupportable. Donc ces gens-là ont bien sûr droit au respect de leurs droits, ont droit à la dignité et ont droit à la démocratie, comme tout le monde. On a prévu d'enchaîner sur la Libye, puisqu'on parle de ces pays-là, effectivement. Donc la situation en Libye qui est assez dramatique, avec la guerre civile qui a tendance à se déclarer. Il suffit de suivre les actualités sur votre poste de radio ou à la télévision pour voir effectivement ce qui s'y passe. Avec l'intervention des forces aériennes d'une coalition de pays visant à éliminer les forces officielles de Kadhafi qui tirent sur son propre peuple là aussi. Bon, Amnesty est toujours très très prudente sur les histoires de guerre, d'intervention militaire en vue d'améliorer la situation des droits humains. C'est quand même des notions qui sont assez difficilement compatibles. La guerre reste la guerre, quels que soient les motifs. Et comme par définition, la guerre tue indistinctement les gens. Et le droit à la vie, c'est quand même le premier droit. Donc les guerres pour encourager la libération nationale ou la démocratie, ce sont toujours des arguments qui nous paraissent assez fallacieux et assez discutables. Amnesty vient de publier un petit document qu'on va vous lire avec Ronan. On va vous faire un petit dialogue à deux là, à propos de la situation en Libye. Donc c'est Amnesty qui fait un peu le point sur justement cette actualité et sur cette intervention militaire visant à la défense des droits humains du peuple libyen. Donc Ronan va vous faire la présentation et moi je vais faire les réponses. Ronan, à toi.
Bon, bonsoir. Parce que tout à l'heure, mon micro n'était pas branché, donc...
Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Non, non, mais j'étais en plein au niveau de technique, on a commencé, j'ai bon, c'est pas grave. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 18 mars une résolution autorisant une intervention militaire étrangère en Libye, le conflit continue de faire rage entre les forces du colonel Muammar Kadhafi, les rebelles basés à Benghazi et les forces internationales qui opèrent des frappes aériennes. Amnesty International passe en revue certaines questions relatives aux droits humains qui sont en jeu. Quelles sont les obligations qui incombent aux parties au conflit libyen au titre du droit international ?
Actuellement, un conflit armé international fait rage en Libye entre les forces de la coalition et le gouvernement libyen. Parallèlement, se déroule aussi un conflit armé non international entre le gouvernement libyen et les combattants rebelles. Il est essentiel que toutes les parties en présence respectent pleinement le droit international humanitaire, les lois de la guerre et les lois applicables en matière de droits humains. Toutes les parties doivent s'abstenir de prendre pour cible des civils ou des biens de caractère civil. Elles doivent adhérer rigoureusement à la définition des objectifs militaires et respecter scrupuleusement l'interdiction des attaques menées de façon disproportionnée et sans discrimination, consigné dans le protocole additionnel à la Convention de Genève sur la protection des victimes d'un conflit armé international qui rend compte du droit international coutumier. Les règles exposées dans ce contexte s'appliquent à toutes les parties et à toutes les situations d'un conflit armé, international ou non. En particulier, les parties en conflit doivent s'abstenir de mener une attaque directe contre des personnes civiles ou des biens de caractère civil. S'abstenir de mener une offensive disproportionnée ou sans discrimination. Prendre toutes les précautions nécessaires, notamment quant au choix des moyens et des méthodes d'attaque, en vue de réduire au minimum les dommages causés à la population civile. S'abstenir de mener une attaque contre des infrastructures, même si elles sont utilisées à des fins militaires, si cette attaque cause incidemment à court et à long terme, pour la population civile, des pertes disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. S'abstenir de mener une attaque contre les médias uniquement parce qu'ils sont utilisés à des fins de propagande. S'abstenir de mener une attaque contre d'autres biens à caractère civil si leur destruction est considérée par l'attaquant comme susceptible d'affaiblir la volonté de l'ennemi de se battre et traiter avec humanité toutes les personnes ne prenant pas directement part aux hostilités, notamment les combattants qui sont capturés, blessés ou se sont rendus.
Les forces libyennes respectent-elles le droit international humanitaire ?
Amnesty International est préoccupé par les informations selon lesquelles les forces gouvernement libyen bombardent les villes tenues par les rebelles, y compris au moyen de tirs d'artillerie. Dans les zones urbaines à forte densité de population, il est impossible de procéder à des tirs d'artillerie tout en faisant dûment la distinction entre civils et combattants. Dans ces circonstances, recourir à des tirs d'artillerie bafoue l'interdiction relative aux attaques menées sans discrimination. En outre, selon des informations non confirmées, les frappes aériennes libyennes étaient aveugles ou ont directement pris pour cible des civils. Amnesty International s'efforce encore de vérifier ces éléments. Nous recevons des informations inquiétantes sur les tirs d'obus et les frappes aériennes qui ont ciblé plusieurs villages et villes où les civils ont sans doute été exposés et où ils sont isolés du reste du monde, les réseaux téléphoniques ayant été coupés. Nous sommes vivement préoccupés par le sort de la population prise au piège dans ces zones. Si le recours à l'aviation pour attaquer des cibles militaires peut s'avérer légitime, les forces concernées doivent adhérer strictement aux règles qui protègent les civils. En aucune circonstance, elles ne sont autorisées à procéder à des attaques qui ciblent directement des civils ou sont menées sans discrimination ou de façon disproportionnée.
Les troupes libyennes, fidèles au gouvernement, ont-elles le droit d'attaquer les rebelles ?
Parce qu'ils prennent directement part aux hostilités, les combattants rebelles perdent provisoirement l'immunité contre toute attaque dont jouissent habituellement les civils. En d'autres termes, les insurgés peuvent faire l'objet d'attaques lorsqu'ils combattent. Toutefois, les combattants qui ne participent plus aux hostilités parce qu'ils se sont rendus, ont été capturés ou blessés, ne doivent pas être attaqués et doivent être traités avec humanité. Amnesty International est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des rebelles capturés ont été soumis à des mauvais traitements, voire tués.
Qu'en étaient les informations selon lesquelles la Libye utilise des boucliers humains ?
Recourir de manière intentionnelle à des boucliers humains afin d'éviter une attaque contre un objectif militaire constitue un crime de guerre. Le protocole 1 des conventions de Genève prohibe le recours à de telles tactiques. Toutefois, le protocole indique clairement que si l'un des camps en présence recourt à des boucliers humains, une telle violation ne dispense pas les parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles. En outre, l'article 53 de ce protocole dispose que la présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personnes civiles ne prive pas cette population de ses qualités. En d'autres termes, ceux qui prévoient d'attaquer un objectif militaire doivent prendre en compte la présence de civils, même s'ils sont utilisés comme boucliers humains. Si cette offensive risque de causer des pertes et des dommages disproportionnés parmi la population civile, elle doit être annulée.
Et les rebelles recourent-ils également à des boucliers humains ?
À la connaissance d'Amnesty International, les combattants rebelles ne recourent pas délibérément à des boucliers humains. Cependant, selon certaines informations, des insurgés ne prennent pas toutes les précautions possibles pour protéger les civils dans les zones où ils mènent leurs opérations. Pourtant, les belligérants sont tenus de prendre toutes les précautions requises pour épargner les civils et les biens de caractère civil qu'ils contrôlent. Le protocole 1 des conventions de Genève enjoint à toutes les parties au conflit d'éviter dans toute la mesure du possible de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées.
Que demande Amnesty International au gouvernement de Muammar Kadhafi ?
Le colonel Muammar Kadhafi doit immédiatement maîtriser ses forces de sécurité et mettre fin aux homicides, aux disparitions forcées et aux autres violations des droits humains. Il doit révéler les noms de tous ceux qui se trouvent aux mains de ses troupes, ainsi que leurs liens de détention, et autoriser les organismes internationaux à entrer en contact avec eux afin de garantir leur sécurité et leur santé.
Quelles sont les garanties humanitaires qui s'appliquent aux civils ?
Toutes les parties au conflit doivent veiller à ce que les civils qui souhaitent quitter le pays puissent le faire sans délai, dans la dignité et en toute sécurité. Le cas échéant, elles doivent autoriser la mise en place de couloirs humanitaires, des itinéraires sûrs pour sortir du territoire. Elles doivent aussi faciliter le transport des approvisionnements et des employés d'organisations humanitaires pour apporter toute l'aide nécessaire. Parmi les populations prises au piège figurent des milliers de réfugiés ou de demandeurs d'asile, notamment des Somaliens, des Éthiopiens et des Érythréens, qui seraient exposés à de grands dangers et risqueraient d'être persécutés ou de subir de graves et mauvais traitements s'ils étaient contraints de rentrer dans leur pays d'origine. Toutes les parties doivent également veiller à ce que toute personne fuyant la Libye puisse franchir immédiatement la frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime, du pays qu'elle parvient à atteindre sans discrimination et quelles que soient ses origines.
Quelles sont les premières conclusions des chercheurs d'Amnesty International en Libye ?
Des chercheurs d'Amnesty International se sont rendus à Benghazi pendant près de 3 semaines. L'équipe a enquêté sur la disparition forcée de dizaines de personnes survenues depuis que les manifestations ont éclaté à la mi-février, contraignant le gouvernement libyen et les forces de sécurité à se retirer de la plus grande partie de l'est du pays. Amnesty International a recueilli des preuves incontestables du recours à la force meurtrière contre les manifestants en février. Plus inquiétant encore, dans bien des cas, des manifestants qui ne posaient aucune menace ont été délibérément tués. Indubitablement, des centaines de personnes sont mortes en Libye depuis le début des troubles, notamment victimes d'homicides délibérés, d'un recours à la force meurtrière excessif et sans discrimination, d'atteinte aux droits humains et prise au piège dans le conflit armé qui fait rage.
Quelle est la situation concernant les disparitions forcées en Libye ?
Amnesty International a reçu nombre d'informations inquiétantes concernant les disparitions forcées. Elle redoute fortement que les victimes de ces disparitions, qui sont aux mains des forces du colonel Kadhafi, ne soient torturées, voire tuées. Certaines sont peut-être détenues comme monnaie d'échange pour faire pression sur les amis et les proches qui soutiennent l'opposition. Les familles de ceux qui seraient détenus par le colonel Muammar Kadhafi et ses troupes n'osent même pas révéler leur nom de peur que leurs ravisseurs n'exercent des représailles contre eux.
Quelle est la situation pour les journalistes dans le pays ?
Certains éléments indiquent que nous sommes en présence d'une campagne d'attaque et de harcèlement à l'encontre des journalistes. Notamment, les forces du colonel Kadhafi ont détenu et torturé 3 membres du personnel de la BBC qui ont été roués de coups et soumis à des simulacres d'exécution, détenus au secret, 2 correspondants et 2 caméramans d'Al Jazeera, tué un caméraman d'Al Jazeera près de Benghazi et arrêté un journaliste brésilien, un journaliste du quotidien The Guardian et 4 journalistes du New York Times, tous libérés depuis. Les journalistes étrangers ont été autorisés à se rendre à Tripoli tout en étant soumis à des restrictions très sévères, notamment à l'interdiction de se rendre dans les zones où des offensives et des violations des droits humains étaient signalées.
Amnesty International a-t-elle pu confirmer les informations selon lesquelles les mercenaires épaulaient les forces pro-Kadhafi ?
Nos chercheurs ont vu des ressortissants étrangers détenus parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des mercenaires. Mais ils n'ont pu établir si tel était le cas, si ces hommes se trouvaient au mauvais endroit et au mauvais moment. Amnesty International a appelé l'Union africaine et ses États membres à enquêter sans délai sur la présence d'éventuels mercenaires, à surveiller le cas échéant, à bloquer les vols suspects et à sécuriser les frontières aériennes, maritimes et terrestres libyennes afin d'empêcher l'entrée sur le territoire de ces mercenaires. Bien, donc voilà, ça c'est la position officielle d'Amnesty par rapport à ce qui vient de se passer. Et donc, on a prévu d'enchaîner avec une bonne nouvelle.
Ah, je pensais faire la pause.
Ah bon, on a changé notre plan. Alors d'accord, je n'avais pas vu le petit signe, c'est pas grave.
Ah ouais, on fait des grands signes.
Donc d'accord, on fait une petite pause musicale après cette actualité un petit peu ardue.
Bidules qui me tentent, trois sous-marins nucléaires et quelques missiles solaires, une ruine de cyclotron, une antique bombe à neutrons. Tout ça n'est vraiment pas cher, c'est bien cradé plein de poussière. Je collectionne les résidus, tous les temps perdus, les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. À la foire aux enfoirés, fin chef d'état empaillé, font la grimace aux gamins, ça fait aboyer mon chien. Des sabres et des goupillons, une douzaine d'échantillons d'OGM comme je les aime, bouffés par les charançons. Je collectionne les résidus, tous les temps perdus, les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. Oh, gobé tout ça. En 2703, j'ai deux têtes et quatre bras. Mon voisin a une queue de lapin, mais ici personne se plaint. En matant tous ces machins, de la foire à la brocante, y'a tout le passé qui décante. Écoute, bah on s'en souvient. Je collectionne les résidus, tous les temps perdus, les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. Oh, gobé tout ça. Dire qu'on a gobé tout ça. Gobé tout ça.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc vous venez d'entendre Paul Persson avec un morceau qui s'appelle J'ai un trou de mémoire, la foire à la brocante.
Ah bah c'est voilà. Toi qui me l'as donné, j'ai
oui,
pas noté
oui,
le tête.
Oui, hein. Non, moi non plus, j'avais pas noté, j'avais une dans ma tête, mais j'ai oublié. J'ai une petite tête.
Ouais, non, mais non.
Donc après l'actualité en Libye et tout ce qu'on vient de vous dire, Il y a Ronan qui va, disons, enchaîner sur quelque chose de plus, beaucoup plus positif. Il va vous lire une bonne nouvelle.
Ah, positif, mais oui.
Voilà, une bonne nouvelle. Et après, par contre, moi, je vais en avoir une moins bonne à vous annoncer. Mais c'est ça, Misty, des bonnes nouvelles et des moins bonnes.
Donc, l'Illinois devient le 16e État américain à abolir la peine de mort. Le 9 mars 2011, le gouvernement démocrate Pat Quinn a signé le texte de loi abolissant la peine de mort dans l'État de l'Illinois. À partir du 1er juillet, il a également commu en réclusion à perpétuité la condamnation à mort de 15 prisonniers. Notre système de peine capitale est intrinsèquement truffé d'erreurs, déclare le gouverneur. Donc là, c'est une bonne nouvelle, suivie malheureusement par une mauvaise nouvelle qui vient ensuite des ESA.
Je pense que Renaud, tu peux lire à ce moment-là le petit texte
fait,
concernant Troy Davis.
Aucun
moi, je vais en dire un petit mot après sur l'affaire.
Donc, Amnesty International est consterné par le rejet de l'appel de Troy Davis par la Cour suprême. Amnesty International est consterné par la décision de la Cour suprême des États-Unis de rejeter l'appel de Troy Davis. Cette décision ouvre la voie à l'exécution prochaine d'un possible innocent. Le système judiciaire américain montre ainsi que cela ne lui pose pas de problème d'autoriser l'exécution de quelqu'un alors qu'il y a tellement de doutes concernant sa culpabilité, déclare Geneviève Garrigot, présidente d'Amnesty International France. Aujourd'hui, aucune personne ne peut objectivement soutenir avec certitude que Troy Davis est coupable à partir des éléments désormais disponibles dans cette affaire. Donc je pense que Didier peut peut-être nous rappeler un petit peu l'affaire.
Oui, Troy Davis est un cas qui est devenu emblématique pour Amnesty France, qu'il défend depuis de nombreuses années. On discute avec Françoise, ça va faire au moins 15 ans, je crois qu'on le défend, quelque chose comme
pense,
ça.
Oui.
Bon, Troy Davis, c'est un petit résumé en deux phrases, a été condamné à mort suite au crime présupposé d'un policier en 1991. Un policier blanc, il faut préciser que Troy Davis est noir, ce qui est déjà effectivement un handicap, malheureusement. Et que donc, sa culpabilité n'a jamais été faite. Il clame son innocence depuis qu'il a été arrêté et condamné. En 2010, il y a eu toute une action qui a été menée en coordination avec Amnesty qui a pu permettre de restatuer, enfin, qu'une cour aux États-Unis restatue sur sa situation. Et voici donc un recours et un rejet par la Cour d'appel des États-Unis était possible. Pendant cette révision, entre guillemets, de son procès, enfin, ce n'était pas une révision, les juristes m'excuseront, mais pendant cette action en justice, cinq des sept témoins à charge qui avaient prétendu que Troy Davis était le meurtrier, cinq des sept témoins à charge se sont rétractés en disant qu'ils avaient menti et que Troy Davis n'y était pour rien. Et Troy Davis a toujours dit qu'il était présent au moment des fêtes, mais c'était une bagarre devant un drugstore apparemment, mais qu'il était absolument pour rien dans ce qui s'était passé. Et donc, malgré ces éléments, la Cour suprême des États-Unis considère qu'il n'y a pas matière à remettre sa condamnation en question et que donc Troy Davis est toujours susceptible d'être exécuté. Donc bien sûr, Amnesty International continue à se mobiliser. Amnesty International France est particulièrement active. Je vous conseille, tous ceux qui nous écoutent, là, c'est important de le faire immédiatement, dès que vous entendrez effectivement cette émission, d'aller sur le site amnesty.fr. Il y a une pétition qui a été recréée depuis hier, la nouvelle date d'hier, qui a été recréée depuis hier et qui demande effectivement auprès des autorités américaines de bien vouloir reconsidérer effectivement la culpabilité extrêmement douteuse, pour ne pas dire plus, de Troy Davis. On terminera cette affaire en disant que Troy Davis, depuis son arrestation, donc depuis 1991, est dans les couloirs de la mort, depuis sa condamnation, qu'il a été toujours extrêmement scrupuleux de la légalité. Il a été tous ses gardiens disent qu'il a été un exemple de bonne conduite, entre guillemets, en prison, qu'il continue à dire qu'il a confiance dans la justice américaine et que son innocence sera connue et qu'il sera libéré, et que donc c'est effectivement quelqu'un qui est extrêmement important pour nous, c'est devenu quelqu'un d'un petit peu exemplaire, et surtout, aller signer la pétition, c'est fondamentalement important.
Oui, allez-y. Allez-y, vraiment, c'est important pour lui et pour nous. Voilà, et ben moi, je vais vous parler de choses un peu plus gaies quand même. Bon, nous allons fêter le 50e anniversaire d'Amnesty. 50e anniversaire d'Amnesty, nous le fêterons le 28 mai. Le 28 mai au Miroir d'eau, hein, à Évreux. Voilà, alors venez nous y rejoindre.
C'est un samedi.
Voilà, nous aurons un stand là au Miroir d'eau. Et nous vous proposerons en fin de journée de déguster un toast. Pourquoi un toast ? Vous devez vous poser la question.
Très bonne question.
Eh oui. Eh bien, c'est parce que ce toast est symbolique. Il symbolise le fait que Peter Benenson, qui a créé Amnesty International, c'était un avocat anglais, se trouvait au Portugal quand deux étudiants ont levé un toast à la liberté. Et ces deux étudiants ont été emprisonnés. Et c'est là, vraiment, voyant cela, qu'il a décidé de fonder Amnesty pour libérer les prisonniers d'opinion. Et ça a été fait à 17h, c'est pour ça qu'à 17h, nous vous convions à venir déguster un toast. Ensuite, eh bien, nous avons aussi un concours que nous proposons aux jeunes. Ce concours a pour titre « L'œil engagé ». Hein, ça vous tente? Bon, eh bien voilà, vous pouvez proposer différentes actions. Là. Vous pouvez faire un plan séquence ou un film continu. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un traitement de montage et vous pouvez créer ce film à partir d'un téléphone portable. Ça doit durer 50 secondes chrono. Autre solution, un film monté, un court-métrage, un film d'animation. Troisième solution, des illustrations, photos, dessins, œuvres graphiques sur papier ou numérique. Alors donc, pour chacune de ces catégories, il y aura deux jurys. Des professionnels de l'art, enfin d'une part, et des internautes d'autre part. Donc, ces gens récompenseront leur auteur préféré parmi les 50 réalisations attendues qui auront mis en lumière l'une des 10 bonnes raisons de défendre les droits humains aujourd'hui. Alors, vous les connaissez peut-être, mais je vous les rappelle. Abolir la peine de mort, lutter contre toutes les formes de discrimination, défendre les droits des migrants, lutter contre la pauvreté, faire de la justice internationale une réalité, protéger le droit à la liberté d'expression, halte aussi à la violence faite aux femmes, et vous pouvez aussi avoir une raison tout à fait défendable de faire un dessin concernant le travail d'Amnesty. Voilà. Donc, vous savez qu'il faut rendre ce travail, enfin ce travail, bon, le 16 mai au plus tard, hein, le lundi 16 mai au plus tard, alors, vous consultez oeilengagé.amnesty.fr. Donc, à partir de là, les internautes pourront voter jusqu'au 23 mai, puis le jury délibérera et donnera les résultats le 28 mai. Bon, alors je vous encourage fortement à participer à ce concours, vous les jeunes.
On rappelle...
Jeunes ou les moins jeunes.
Les jeunes ou les moins jeunes, oui, bien sûr. Oui. C'est un travail militant de soutien pour Amnesty. On rappelle le site, donc œil engagé, en un seul mot et sans tout attaché et sans accent, oeilengagé.amnesty.fr. Vous aurez tous les renseignements. Bien, alors, une fois ces actualités données par Françoise, on avait prévu...
Une petite pause et après, je ferai une petite action urgente.
On fait une pause tout de suite?
Comme tu veux, ou je fais l'action urgente maintenant?
Ce serait bien de faire l'action urgente maintenant, oui, puis on fera la pause après, à ce moment-là.
Il n'y a pas de souci. Donc l'action urgente sur laquelle je vais parler ce mois-ci, c'est par rapport au Rhum en Hongrie. Donc le principe de l'action urgente, donc comme je l'ai répété plusieurs fois, tous les mois, en fin de compte, c'est tout simple, c'est une lettre à écrire. Donc vu que si vous n'avez pas le temps d'écrire la lettre, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez, donc Didier va nous donner l'adresse de notre mail à Évreux.
Oui, alors donc vous nous contactez à amnesty, amnesty@evreux.com.
Et même si ce n'est pas au niveau de l'action urgente, vous pouvez toujours nous contacter par rapport à l'émission radio, ça fait toujours plaisir. Si c'était intéressant, s'il y a des choses à changer, il peut y avoir un dialogue, il n'y a pas de problème, on vous répondra. Donc concernant l'action urgente, c'est une action urgente en Hongrie concernant des groupes d'autodéfense qui menacent des communautés roms donc en Hongrie. À la suite d'une marche anti-rom organisée le 6 mars par le Jobbik, qui est un parti d'extrême droite, dans le village de Gyöngyöspata, excusez-moi encore pour la prononciation, trois groupes d'autodéfense patrouillent les environs en harcelant et en intimidant les habitants roms. Les roms de la région auraient été victimes d'injures à caractère raciste et leur sécurité pourrait être menacée. Ces groupes d'autodéfense ont annoncé que leur prochaine cible serait les roms de la ville d'Adjun Andazo. La police ne semble avoir pris aucune mesure. Le 6 mars, le Jobbik a organisé une manifestation qui a rassemblé 2000 à 3000 personnes dans le village de Gyöngyöspata, situé au nord-est de Budapest. Le parti aurait été invité à organiser cette marche dans ce village pour la protection des Hongrois, après le suicide d'un vieil homme qui aurait mis fin à ses jours parce qu'il aurait été harcelé par des habitants roms. Gábor Vona, le dirigeant de Jobbik, a parlé de terreur gitane. À l'issue de cette marche, jusqu'à 200 membres des groupes d'autodéfense, Nouvelle Garde Hongroise, Association de la Garde Civile pour un meilleur avenir et Vagabonds pour la protection des Hongrois sont restés dans le village où ils harcèlent et insultent les habitants roms. En raison de ce harcèlement, de nombreuses familles roms ont cessé d'envoyer leurs enfants à l'école. Ces groupes auraient également crié devant les fenêtres des habitants roms la nuit, auraient proféré des menaces de mort à leurs encontres et les auraient également menacés à l'aide d'armes et de chiens. Ces groupes d'autodéfense semblent avoir défilé en uniforme militaire et dans certains cas avec des armes telles que des fouets ou des haches. Des représentants d'ONG locales, des membres du personnel d'Amnesty International Hongrie ainsi que d'autres militants ont été témoins de certains de ces actes de harcèlement et ont déclaré que la police n'avait rien fait pour les empêcher. Quatre personnes ont néanmoins été arrêtées le 16 mars à la suite d'une réunion du village à laquelle les habitants roms semblent ne pas avoir participé en raison du racisme ambiant. La police a fini par établir des points de contrôle, mais selon certaines informations, les habitants roms du village se seraient vus conseiller de bien se tenir et il ne leur arriverait rien. Donc, en fin de compte, on demande donc d'écrire une lettre pour demander aux autorités de prendre immédiatement des mesures efficaces afin de protéger les communautés roms de Gauche Gyompata, de Hajdúzadaza et d'ailleurs en Hongrie contre le harcèlement et les violences. Encourager-les et à condamner publiquement l'incitation et le recours à la violence à caractère discriminatoire à l'encontre de n'importe quelle catégorie de personnes au sein de la société hongroise. Désengager à mener une enquête prompte et exhaustive sur les actes de harcèlement et de violence à caractère raciste et de leur prier de veiller à ce que les auteurs de tels actes fassent l'objet de poursuites au terme de loi prévoyant des peines reflétant la gravité des faits. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, si vous êtes intéressé par ce genre d'action, vous nous envoyez un petit mail et enfin, on vous emmènera la lettre, il n'y aura plus qu'à la remplir.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre email, je le répète encore une fois, amnesty.evreux@gmail.com. Vous nous envoyez vos coordonnées, votre adresse email, et on vous renvoie cette action à faire toute prémâchée, dirons-nous. Alors, on avait prévu d'enchaîner sur un... Mais on va faire une petite pause musicale avant.
On fait une pause parce que l'enchaînement après est quand même assez... Voilà, c'est sport. Après.
On va enchaîner sur toujours l'actualité en termes de... L'actualité française en termes d'élections et tout ce qui vient de se passer. On va en dire un petit mot. Mais on va effectivement avant faire une petite pause musicale.
Don't leave me high. Don't
On vient d'entendre donc Radiohead, un titre qui s'appelle High and Dry. Donc, retour à l'actualité des droits humains et retour à notre actualité nationale, après avoir beaucoup parlé de ce qui se passait à l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes rentrés depuis ce mois-ci dans une période électorale en France qui va durer pendant au moins un an, puisque maintenant on enchaîne après les cantonales sur les élections présidentielles. Je vous avais parlé à la dernière émission, je vous avais dit un petit mot, mais sans développer du tout, que Amnesty profite de cette actualité pour publier un manifeste pour les droits humains, qui est un rappel plus précisément en direction des candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives à venir, sur un rappel sur la nécessité pour les différents partis en présence de s'engager sur le respect des droits humains. Donc je vais vous lire simplement un petit résumé qui sera en fait les têtes de chapitre de chaque page, c'est assez court, avec un petit mot de la présidente, qui dit, la présidente d'Amnesty France qui s'appelle Geneviève Garrigos, qui dit la chose suivante: les droits humains nous concernent tous, citoyens français ou étrangers, résidents ou de passage, en situation régulière ou pas. Le respect des libertés fondamentales n'est pas qu'une question d'indicateurs qui permettrait de comparer tel pays à tel autre, voire d'excuser certaines violations compte tenu d'avancées dans d'autres domaines. La Déclaration universelle des droits de l'homme est née de la nécessité de protéger l'individu des abus de l'État, de garantir un accès égal au droit à la justice, de prévenir les discriminations, la stigmatisation, la haine raciale, sociale ou religieuse. La violence, prise en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, les droits humains donnent un cadre qui permet d'améliorer la situation des plus vulnérables, de faciliter l'insertion, de mieux vivre ensemble, de limiter les effets des crises, quelles qu'elles soient. C'est le pari qu'ont fait ceux qui ont rédigé ce texte et l'ont adopté en 1948. C'est l'engagement que nous attendons des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui. Alors le premier chapitre, c'est placer les droits humains au cœur des questions de sécurité. Dans de nombreux pays, la sécurité est invoquée pour justifier le recours à des pratiques contraires au droit international. Amnesty International rappelle que les droits humains ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de la sécurité. En ratifiant la Convention contre la torture, la France s'est engagée à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires efficaces pour empêcher que des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis sur tout son territoire. Le deuxième thème concerne mettre en place des politiques efficaces de lutte contre les discriminations. Tolérer qu'un groupe soit privé de ses droits revient à fragiliser tout le dispositif de protection des droits humains. En ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les deux pactes rendant contraignants les droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la France s'est engagée à condamner la discrimination et à poursuivre par tout moyen approprié une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination. Défendre le droit d'asile et les droits des réfugiés. Le droit d'asile est le dernier droit lorsque tous les autres ont été bafoués. Ce droit est de plus en plus menacé en Europe alors que des réfugiés sont beaucoup plus nombreux sur d'autres continents. En ratifiant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la France a pris l'engagement de ne pas refouler une personne sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Avoir faim, être sans logis, ne pas avoir accès aux droits, aux soins, est souvent considéré comme une fatalité, alors que dans bien des cas, c'est la conséquence d'une accumulation de violations des droits fondamentaux. Avec sa campagne mondiale « Exigeons la dignité », Amnesty International s'emploie à combattre ces violations. En ratifiant en 1980 le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la France s'est engagée à respecter, protéger et mettre en œuvre l'ensemble des droits contenus dans ce texte.
obtenir justice et réparation pour les femmes victimes de violences. Partout dans le monde, les femmes sont humiliées, battues, violées, tuées ou prises pour cible pour la simple raison qu'elles sont des femmes. En ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la France a pris l'engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner ce type de violation. Au fil des années, la France a amélioré sa législation et les pratiques destinées à prévenir et réprimer ces violations, mais d'importantes lacunes subsistent. Enfin, mener une politique étrangère plus respectueuse des droits humains. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, assurant la présidence de l'Union européenne en 2008 et celle du G8 et du G20 en 2011, la France est un acteur politique et économique majeur sur la scène internationale. Elle a de ce fait une responsabilité juridique et politique particulière vis-à-vis de la communauté internationale. Cette responsabilité doit s'exprimer par le respect et le suivi des traités auxquels elle est partie et par un comportement exemplaire sur la scène diplomatique. Donc c'est donc un tout petit résumé de ce manifeste pour les droits humains d'Amnesty à destination des candidats aux prochaines élections. Vous pouvez retrouver l'intégralité là aussi de ce texte sur www.amnesty.fr.
Qui ont changé leur site.
Héloïse, c'est un site tout neuf. Je vous conseille effectivement, très judicieuse remarque Renan, je vous conseille effectivement d'aller le consulter. Il a été refait entièrement, il a été refait plus dans l'esprit de ce qu'étaient les autres sites internationaux d'Amnesty. Il y a un air de famille et il est effectivement beaucoup plus lisible.
Ah, lisible, voilà. Moi je m'y perds un peu, voilà. Parce que je suis habitué à l'ancien.
Oui, mais ça c'est parce que tu as de trop mauvaises habitudes. Voilà. Mais en fait, il est beaucoup plus, moi je trouve, beaucoup plus effectivement parlant et beaucoup plus pratique à utiliser. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a encore, là aussi, c'est une mine d'informations. Et pour conclure sur le thème des élections, donc puisqu'on vient d'en vivre une partie là chez nous, Amnesty n'est pas une organisation politique, comme vous le savez, donc Amnesty n'a rien à dire et pas de constat à faire sur les candidats en présence au niveau de leur programme, tout et autant que ces candidats et ces partis politiques respectent la démocratie et les droits humains, bien évidemment. Et il y a quand même un problème qui se pose, comme c'était posé aux élections présidentielles en 2002, c'est qu'il y a un parti, effectivement, qui s'appelle le Front National, pour ne pas le nommer, et qui, lui, n'est pas du tout un exemple, ni en termes de respect de la démocratie, ni en termes de droits humains. Donc, il faut quand même être bien conscient qu'effectivement, il y a un niveau d'échelle entre les partis politiques et le Front National, et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Je suis allé, moi, cet après-midi, pour la première fois de ma vie, sur le site du Front National, voir un peu quel était leur programme, et j'avoue que je voulais vous en parler. Finalement, je ne sais même pas si je vais le faire, ça fait assez froid dans le dos. Je vais simplement vous dire que sur la première page de leur programme politique, et ça c'est une information à répercuter aussi autour de vous, si vous connaissez des gens qui votent Front National, non pas parce qu'ils sont extrémistes dans l'âme, mais parce qu'ils en ont un petit peu ras-le-bol de l'inaction et du laisser-faire des partis politiques officiels. Il y a quand même la première phrase qui est sur le programme électoral du Front National, c'est que l'origine de la plupart des maux, c'est leur propre terme, à l'origine de la plupart des maux dont souffre notre pays, c'est la politique de l'immigration qui est en cause. C'est-à-dire que à croire qu'il n'y a pas de crise économique, qu'il n'y a pas de crise de valeur, qu'il n'y a pas d'autres crises que simplement une crise de politique de l'immigration. Autrement dit, si ça va aussi mal en France, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et tout le programme, effectivement, en découle de cette façon-là. Ce discours-là, on le connaît, on l'a déjà entendu. On sait effectivement à quelles extrémités il aboutit et à quel massacre dans l'histoire il a toujours abouti. Donc, repassez le mot autour de vous. Si vous ne croyez pas, allez sur le site du Front National. Il faut se boucher le nez, mais il faut faire l'effort de le faire. Et aller sur le site du Front National, c'est suffisamment éloquent. Effectivement, ces gens-là ne sont ni des démocrates, ni des gens respectueux des droits fondamentaux. Et à ce titre-là, effectivement, Amnesty ne peut pas ne pas le dire.
Bon, donc, je vais peut-être parler de bonnes nouvelles, non?
Oui, on va changer de sujet.
Parce que faire de la pub, non, je vais faire des bonnes nouvelles.
Bon, allez, vas-y, ouais. Vas-y, Renan, quelques bonnes nouvelles.
Alors, au Maroc, la libération d'un ancien officier victime de détention arbitraire. Donc, Amnesty International se réjouit de la libération au Maroc du haut gradé militaire à la retraite, condamné à une peine de 12 ans de prison après avoir écrit au roi pour se plaindre du traitement réservé à d'anciens pilotes de l'armée de l'air. Alors, une petite bonne nouvelle encore. En Turquie, Mehmet Dezde gagne son procès. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a condamné l'État turc pour les tortures subies par Mehmet Dezde, ancien prisonnier d'opinion, le 1er février 2011. La CEDH a reconnu les tortures que Mehmet Tesde a subi en juillet 2002. Il avait intenté un procès en Turquie contre les quatre policiers tortionnaires qu'il a perdus. Il avait été acquitté, mais dont il a fait appel auprès de la CEDH. Voici le message qu'il envoyait à l'une de ses correspondantes d'Amnesty International France. « J'ai gagné mon procès. La torture a été reconnue. Au 1er février, la CEDH a annoncé sa décision. La justice a reconnu que, de son point de vue, j'avais été torturé en juillet 2002 à la prison d'Izmir, établissant la violation de l'article 3 de la CEDH et accorde le versement de 19 000 euros contre des dédommagements. La Cour a également reconnu une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et demande la révision du jugement comme meilleure forme de réparation. »
Je suis contente, excuse-moi.
Non, vas-y, je t'en prie.
Vraiment, j'ai souvent écrit pour ce prisonnier-là.
Moi aussi, c'est ce que j'allais dire.
Et je suis contente de savoir qu'il est libéré.
Il a été libéré le 6 octobre 2008, après un an et demi de détention. Mais bon,
2010.
Ah, sur mon papier, c'est marqué 2008, je pense que c'est plutôt 2010. Pourtant, c'est un papier officiel d'Amnesty, mais bon.
Il y a peut-être une faute de frappe, ça arrive.
Ouais, mais ça arrive. Bon, on fait une petite pause,
Je vais peut-être parler de...
Françoise.
Françoise avait quelques mots à dire.
Des victimes invisibles, les migrants au Mexique.
Je t'interromps, Françoise, juste pour dire que depuis que Ronan fait la technique, maintenant il est obsédé par le fait de passer des disques. Bientôt, on va faire une émission musicale d'Amnesty. Vas-y, Françoise.
Un petit peu plus rock'n'roll.
Alors voilà, nous avons une nouvelle campagne. Là, enfin, une nouvelle campagne qui a commencé le 18 décembre, mais le temps passe vite, et qui va se terminer le 15 avril, donc je vous en parle. C'est au sujet des victimes invisibles. Les migrants au Mexique doivent être protégés. Donc, transitant par le Mexique pour rejoindre les États-Unis, souvent à la recherche de conditions de vie meilleures, ces personnes deviennent des cibles faciles pour des bandes criminelles qui se rendent coupables de multiples exactions à leur encontre, jusqu'à la torture et l'assassinat, souvent avec la complicité active ou passive des autorités. Mais les choses bougent. Des dispositions législatives ont été récemment adoptées pour permettre un meilleur accès à la justice. Des engagements ont été pris pour prévenir les violations et protéger les victimes. Il est donc plus que jamais temps d'agir. Donc c'est pour ça que Amnesty a lancé cette campagne. Alors cette campagne, elle l'a lancée pour la bonne raison que ces migrants... subissent, comme je vous le disais tout à l'heure, des tas de problèmes au Mexique. Hein. Ils sont des dizaines de milliers irréguliers originaires d'Amérique centrale qui traversent ce pays pour se rendre aux États-Unis, où ils espèrent une nouvelle vie. Bon, pendant le voyage, ils risquent d'être victimes de passages à tabac, d'enlèvements, de viols et même de meurtres. Des bandes criminelles seraient responsables de la plupart de ces atteintes, mais on signale aussi des atteintes de la part des agents de l'État. Les migrants qui subissent des atteintes portent rarement plainte, car ils craignent d'être expulsés. Il en résulte que les auteurs de ces agissements jouissent d'une impunité quasi systématique. L'inaction permanente des autorités pour prévenir et punir ces graves violations des droits humains crée une grande insécurité. Les discriminations et violations subies par ces milliers de victimes privés d'accès à la justice sont ainsi invisibles aux yeux de la société mexicaine et ignorés par les autorités qui devraient les empêcher ou les punir. Sans protection légale, les migrants sans titre de séjour au Mexique sont condamnés à vivre marginalisés et ce cercle silencieux les rend encore plus vulnérables à l'exploitation et aux violations. Concrètement, il y a peu d'initiatives effectives pour prévenir les violations, protéger les migrants et obtenir réparation. Récemment, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu quand même des progrès. Au mois de septembre, le Sénat mexicain a reconnu le besoin d'améliorer l'accès à la justice pour les migrants en situation irrégulière. Il a approuvé une réforme à l'article 67 de la loi générale de la population qui exigeait aux autorités de demander aux citoyens étrangers sollicitant leur aide la preuve de la légalité de leur présence sur le territoire mexicain. La réforme, qui vient d'être publiée par le président Calderón, interdit de refuser ou de restreindre le traitement des plaintes pour atteinte aux droits humains ou l'administration de la justice, quel que soit le statut du migrant en question au regard du droit. Amnesty International regrette toutefois qu'il ait fallu attendre que 72 migrants soient tués en Tamaulipas au mois d'août avant que le gouvernement fédéral ne se saisisse de la question. Donc, il y a une lettre que nous vous proposons à signature. Alors donc, si vous voulez nous joindre sur amnistie.evreux@gmail.com, nous vous donnerons connaissance de la lettre et vous pourrez envoyer donc cette lettre pour demander que les migrants mexicains, les migrants au Mexique, pardon, soient protégés. Voilà.
Bien, eh bien, donc maintenant, je pense que Renan va pouvoir lancer le disque.
Ah, je ne dis plus rien.
Puisque Renan piaffe d'impatience pour lancer la musique. Allez, vas-y, Renan.
Pas du tout.
I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every song. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wife ears in the meadow. Their white halo spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty. Painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face of Carnival. The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted. A shadow lies and waits outside your iron gates with one wish granted. Colors fall, throw the ball, play the game.
Bien, retour à l'émission d'Amnistie sur Principe Actif. On va d'ailleurs faire le petit dernier, la dernière intervention, les petites dernières 10 minutes. Les 10 minutes pour la bonne bouche, on pourrait dire. Et donc, c'est bon, je suis à l'antenne, non ?
Ouais, bien sûr, bon,
non, j'avais un doute tout d'un coup.
Je
demandais à Renan.
C'est pas parce que je touche à tous les boutons.
Je redemandais à Renan, super technicien, de me confirmer. Donc, on vient d'entendre une chanteuse coréenne que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle Yoon Sunna. On m'excusera, je parle très mal le coréen. Et qui est une chanteuse de jazz. Voilà. Donc, pour finir, je voulais faire vous passer une information qui n'émane pas d'Amnistie, même si Amnistie, c'est déjà
préoccupé du dossier et s'en préoccupe toujours. C'est un dossier qui concerne les tentatives du gouvernement actuel pour supprimer le droit au séjour pour soins. On en avait déjà parlé. Alors, je vous résume en deux mots. C'est une possibilité qui existe en France pour les gens qui sont en situation, des gens d'origine étrangère en situation légale ou illégale. Il n'y a pas de distinction. Mais qui souffrent d'une maladie grave et qui pour lesquels des soins ne seraient pas faits correctement dans leur pays d'origine. Donc si ces gens sont expulsés vers leur pays d'origine, on peut supposer que ces gens-là effectivement auront des ennuis de santé importants. La loi française jusqu'à présent prévoit que ces gens ont un droit automatique à être soignés en France jusqu'à temps que leur situation s'améliore. Ou au moins pendant un an, là aussi on m'excusera, je ne suis pas sûr de la durée, mais au moins pendant un an. Cette directive est soumise à un barrage de tir, si on peut dire, du gouvernement actuel qui tente à la supprimer. Il l'avait déjà fait avant les vacances et ça avait été la loi modifiant cette disposition-là avait été rejetée par le Sénat. Elle était rediscutée actuellement au niveau de l'Assemblée nationale à la demande du président de la République. Et j'ai reçu aujourd'hui, parce que je reçois des informations de leur part, de l'association AIDE, que vous connaissez forcément, l'association pour aider les victimes du sida. Le texte suivant. L'Assemblée nationale s'entête à vouloir supprimer le droit au séjour pour soins. Elle est même allée jusqu'à supprimer également la protection contre l'expulsion des étrangers gravement malades qui n'ont pas accès aux soins dans leur pays. Être séropositif au VIH sans garantie de soins au pays ne permettra plus, demain, d'avoir une carte de séjour et n'empêchera pas d'être remis de force dans un charter vers la mort. Les sénateurs vont discuter du projet de loi sur l'immigration à partir du 12 avril. Ensemble, vous pouvez les convaincre de rejeter ces dispositions qui vont conduire tout simplement à la mort de milliers de personnes. Et pris en exemple, un monsieur Kanouté Tieni, un Malien, qui a été expulsé chez lui, qui est malade du sida et qui en est mort effectivement récemment. Si vous êtes indigné et inquiet des mesures proposées, si vous pensez aussi que les étrangers ne sont pas la cause de tous les maux de notre société, interpellez directement votre sénateur. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids. À cette fin, vous trouverez, alors c'est bien sûr l'email que j'ai reçu, un mail type ci-dessous que vous pouvez adresser et télécharger et adresser au sénateur de votre département ou de votre région. Merci beaucoup pour votre soutien, le combat continue. Alors, je vous lis le mail, effectivement, qui est libellé de la façon suivante. Immigration, intégration, nationalité, étranger malade, dites non aux restrictions. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, l'Assemblée nationale s'entête à vouloir supprimer le droit au séjour pour soins et à la protection contre l'expulsion des étrangers gravement malades qui n'ont pas accès aux soins dans leur pays. Le Sénat s'était opposé à ces restrictions. En tant que citoyen, je soutiens les conclusions de nombreux rapports d'experts et de sociétés savantes pointant les risques pour la santé, voire pour la vie de ces personnes. Plus de 11 000 citoyens ont déjà signé une pétition s'opposant à ces restrictions. Je compte sur vous pour rejeter ces dispositions qui mettent à mal le droit au séjour pour soins et condamnent des malades à retourner mourir dans leur pays. Refusez de rétablir la peine de mort pour les étrangers gravement malades. Je vous prie d'agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, l'expression de nos salutations respectueuses. Bon, cette action-là, donc encore une fois, qui n'émane pas directement d'Amnesty, mais qui est un sujet que traite également Amnesty, vous pouvez la télécharger et la récupérer sur le site de AIDE, qui est www.aides.org. Vous allez sur le site et vous récupérez effectivement le texte de ce courrier. On vous encourage vivement à le rédiger, on vous encourage à le faire suivre, on vous encourage vivement à l'envoyer à votre sénateur. Il y a également sur le site la liste des sénateurs avec leur adresse email. Tout est préparé, il n'y a plus qu'à suivre les indications. www.aides.org.
Allez-y, faites-le. Hein. On compte sur vous.
Autre information qu'on voulait vous donner, c'était un petit rappel sur donc notre 50e anniversaire, date importante pour Amnesty bien sûr, donc le samedi 28 mai prochain, réservé déjà sur vos plannings, Outlook et autres calepins, papier, informatique et autres, réservé cette journée du 28 mai. On a rendez-vous place du Miroir d'eau, on aura un stand, on aura sans doute, on espère, on est en train d'y travailler, d'autres surprises à vous proposer. 50 ans d'Amnesty, ça se fête et c'est vraiment effectivement quelque chose pour nous qui est important, c'est que c'est une fête. Renan, plus de bonnes nouvelles ? On a épuisé les bonnes nouvelles ?
Non, par contre j'ai une petite info locale.
Ah ben je t'en prie, vas-y,
on est là pour ça. J'ai une petite info locale, donc c'est concernant le lundi 4 avril, donc à la Bonneville-sur-Iton, à l'espace des Prés de la Noé, à Bougeons pour le Japon. Donc à 16h30, il y a une vente de gâteaux à l'école La Forge. 18h, collecte de vêtements et de couvertures. 20h, concert, c'est les Borborignes. Excusez-moi encore pour la prononciation. 21h15, théâtre. Fabienne Sonnelette, j'ai quelque chose à vous dire. Donc il faut venir nombreux, c'est pour soutenir le Japon. Donc l'entrée est de 10 euros et 7 euros pour les étudiants. Avec bien sûr restauration sur place. Ah, j'ai pas donné l'heure, à 19h30, donc c'est lundi prochain, lundi 4 avril.
D'accord, on y sera.
On y sera bien sûr. Donc on termine pour rappeler les différentes adresses internet qui vous seront utiles. L'adresse du groupe local amnistie.evreux@gmail.com. L'adresse du site d'Amnesty France www.amnesty.fr. Donc allez-y, il a été refait à neuf. Le site pour l'œil engagé, là, notre petit concours artistique à propos du 50e anniversaire dont vous a parlé Françoise tout à l'heure, œil engagé en un seul mot et sans accent, .amnesty.fr. Je pense aussi qu'on peut trouver l'adresse sur le site d'ailleurs de Amnesty France, il doit y être.
Oui. Et notre prochaine émission qui sera le mardi 26 avril.
Voilà, mais on a oublié quand même de signaler qu'on avait aussi notre propre site local qui est toujours en construction mais qui a avancé là grâce à l'aide de. J'ai oublié son nom d'ailleurs.
Jean-Paul Rostin.
Voilà,
tout
merci
à fait.
Françoise.
Merci Françoise.
Qui a beaucoup travaillé pour nous depuis le mois dernier et qui donc, le site c'est www.asso.fr, web amnesty.evreux. Vous allez sur le site www.asso.fr, vous tapez Amnesty sur la.
Eurasso.
Oh là là, lamentable. www.eurasso.fr, vous allez sur la page d'accueil, vous tapez Amnesty sur le petit moteur de recherche et vous tombez directement sur notre site. Là aussi, vous aurez des infos locales, vous aurez un résumé des campagnes, vous aurez plein d'informations à découvrir. Donc n'hésitez pas. Et puis rendez-vous à notre prochaine émission le
26 avril.
Le 26 avril, toujours à 20h, toujours sur l'antenne de Principe Actif. Et d'ici là, vous pouvez toujours écouter nos émissions en podcast, aussi bien sur le site de principeactif.net que sur notre site local Eurasso Amnesty.
Et je tiens à m'excuser pour une chose que je viens de remarquer. Didier m'avait fait signe tout à l'heure, il avait raison. C'est que j'avais pas bien monté les micros, donc il faudra peut-être au niveau de votre radio juste augmenter un petit peu le volume. Parce qu'en fin de compte, les micros, tu avais raison Didier, n'étaient pas montés assez haut.
Bon, c'est pas grave, on te pardonnera.
Il suffira juste de monter le volume au niveau de la radio, au niveau de l'internet.
Comme on est là pour faire des émissions pendant au moins 25 ans, au bout de 25 ans, on maîtrisera la technique. Les gens de Principe Actif seront pâles de jalousie quand ils nous verront.
Bon, sur ce, on vous souhaite donc une bonne soirée.
Très bonne soirée à tous.
À très bientôt. Et puis encore un petit mot pour Edith, on pense bien fort à elle. À bientôt.
Allez, à bientôt. Au revoir.